pas tout. Hein.
Ouais.
Je connais pas tout.
Voilà. Mettez-vous un peu plus loin. Mettez les chapeaux pour ceux qui sont là, il y a un peu de soleil. D'habitude, il y a de l'eau, mais là, ils ont mis la souka. Alors, en quoi c'est l'événement le plus important pour la constitution de cette église mère, cette première église ici, et cette première église qui va s'élargir, donc d'où le nom église catholique, église universelle. Mais ici nous sommes non pas au fondement, le fondement il est là-bas, parce que le fondement, la mort et la résurrection du Christ vaut pour tout homme, hein, ça c'est dans Saint Jean chapitre 17 par exemple, dans la grande prière du Christ. Donc ça ne concerne pas simplement que les chrétiens, ça concerne les chrétiens à la mesure où voilà, ils adhèrent à cette foi nouvelle qui naît dans la mort et la résurrection du Christ. Ici, on est obligé de faire mémoire, vous êtes obligé de faire mémoire. Alors, reprenez par la mémoire l'itinéraire qu'on a dans la Bible, on ne va rien inventer. On va essayer de mettre un peu d'ordre dans vos têtes.
De la salle.
Robert, tu te tais pour l'instant. Tu prendras la parole dans bientôt. Donc, vous voyez, Robert vient me dire quelque chose de juste, mais il a censuré pas mal de choses. C'est essayer de retrouver vraiment voilà, comment cette église, quels sont les événements fondateurs. Alors, il suffit d'une chose par la mémoire, d'une manière linéaire, d'aller jusqu'au bout de ce livre. Tout est dans les évangiles. Vous êtes des chrétiens confirmés, au sens de l'âge. Donc, vous avez de la pratique. Vous avez assisté à des tas de faits. Essayez de retrouver cette dynamique à partir du premier événement et jusqu'au dernier en mettant de l'ordre dans vos têtes. Oui, c'est vrai, c'est tout de suite, c'est d'entrée.
Non.
C'est d'entrée, ça, la Pentecôte.
Non.
Ben alors, je vous demande de remettre les choses en ordre.
Il y a le lavement des pieds, le baptême.
Là, le baptême, là. N'importe quoi. Là, vous allez. Non, vous allez tous là du côté de la scène. Il se passe rien avant.
L'entrée à Jérusalem.
La quoi ?
L'entrée.
L'entrée à Jérusalem.
On est au Cénacle, là. C'est le texte que j'ai lu ce matin.
Le lavement des pieds.
Encore un peu avant.
La Pâque.
Non, ça c'est une généralité.
Le petit
âne.
Quelle est la question ?
La question, c'est de remettre de l'ordre dans vos têtes où c'est complètement le désordre. Vous savez les choses, mais vous ne savez pas les ordonner. Là, je suis en train de faire de la catéchèse. Et là, je ne sais pas où est Francis.
Il est parti.
Mais il s'est sauvé.
Quand Jésus demande à quelqu'un d'aller trouver un endroit pour la Pâque.
Voilà.
Bravo.
Ça, number one.
Tu peux répéter.
Tu peux répéter, oui.
C'est moi qui m'ai soufflé.
On va le premier de la classe.
C'est pour pas qu'on dit ça.
Le premier événement, ayez en mémoire vos évangiles. Ben, vous connaissez les évangiles, sauf que c'est complètement de foutraque, votre truc. Là. Le premier événement ici, c'est Jésus qui envoie deux de ses disciples pour préparer dans la chambre haute, préparer le repas de la Pâque.
Ah oui, il l'avait dit.
Non, c'est ce qui vient d'être dit là.
On l'avait dit tout à l'heure.
Non, tout à l'heure, il faut me le dire plus fort.
Il ne parle pas assez fort.
Donc ça, c'est le premier événement. Donc un bâtiment qui est choisi grâce à un indicateur. Ça, vous ne le savez pas, et pourtant, c'est dans le texte. Vous verrez un homme
portant une cruche.
Voilà.
Bien Bernadette.
Portant une cruche sur la tête. Vous avez vu des hommes dans le contexte du Proche-Orient, des hommes porter une cruche sur la tête. C'est un indicateur. Donc un ami de Jésus. Et sans doute, on pense qu'il appartient à une communauté des Hassidim. Donc il y a une familiarité entre ce que dit, ce que fait Jésus, la rumeur Jésus. Donc lui, il sert d'indique pour voilà, aller préparer la pièce. Très bien, on a le premier événement. Ensuite, allez doucement. Bah, continuez.
On a peur de dire des bêtises.
Non, ben, n'ayez pas peur, j'ai jamais frappé quelqu'un. Ah, quoique.
Trouvez l'annon.
L'annon, c'est ce matin.
Là, celle-là demandait.
Alors, si on est dans quel évangile là ?
Saint Jean. Lavement des pieds, Saint Jean.
Alors, avant le lavement des pieds, il y a quand même quelque chose.
Oh, Robert, tais-toi.
Ça, c'est à la fin.
Judas, on prend une deuxième semaine, hein, parce que là, c'est pas si
bah, il y a la préparation du repas. Ah oui, oui. Non, ça, c'est pas important, ça, le repas. C'est le plus important pour vous. Et pourquoi vous le célébrez tous les jours avec moi, ce dernier repas du Seigneur. Et c'est comment il s'appelle, ce dernier repas? Ça, c'est un langage chrétien, mais moi, je suis juif. Le seder. Le repas pascal juif s'appelle le seder, qui veut dire la table hein, du dernier repas. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Ne croyez pas qu'il y a le pain et le vin.
Il y a des fruits, il y a des herbes.
Il y a des herbes.
Des viandes, l'agneau.
Il y a pas, il y a l'agneau. Ah, maintenant, c'est un os. Hein,
qu'on met, sans le vin.
Il y a des pains sans le vin. Le matzot, qu'on appelle, ou en grec, c'est azim. Donc, sans le vin. Il y a plein de choses comme ça. Il y a hein, des laitues, il y a hein, des... Hein, de, j'appelle ça le pudding anglais, hein, qui rappelle le mortier. Tous les éléments sur la table du céder rappellent... Rappelle quoi ? Rappelle la présence d'esclavage et la sortie d'Égypte. D'où l'importance cette nuit-là. Donc, ils ne sont pas à table à l'époque de Jésus, mais couché, la tête sur la main gauche, et il y a tous les éléments du repas qui sont là. Alors n'oubliez pas le vin, il y a trois coupes de vin aussi. Et c'est là que l'enfant le plus jeune de l'assemblée, ça se passe dans les maisons. Jésus, il choisit une maison. Pourquoi il choisit une maison ? Parce qu'il vit à la belle étoile sur le mont des Oliviers, donc il ne peut pas vraiment célébrer le céder. Donc il a réservé, avec un indique, une salle là où il va pouvoir célébrer le céder. Soyez pragmatique, soyez simple. Mettez un peu... Donc voilà, et l'enfant va dire, va lancer, c'est l'enfant qui va lancer la célébration du céder. Pourquoi cette nuit n'est-elle pas comme les autres nuits ? Et à partir de là, le père de famille, le responsable de la maisonnée, eh ben, va raconter. Ça va être une séance de catéchèse. Pourquoi cette nuit n'est-elle pas comme les autres nuits ? Et là, il va indiquer les éléments, à quoi ça renvoie, quoi ça signifie, etc., etc. Ok ? Alors, qu'est-ce que fait Jésus donc, au cours de ce repas ? Attendez, pas trop vite, soyez simple, je vous ai dit.
Il dit qu'il a ardemment souhaité manger cette pâte avec
lui. Oui, ça.
D'abord, il s'installe.
Donc, voyez bien. les évangélistes vont faire un travail d'archéologue. Rappelez-vous ce que je vous ai raconté pour le Saint-Sépulcre, comment Hélène, à partir d'un tombeau qu'on lui montre, cette communauté, elle va dégager la nécropole. Qu'est-ce que les évangélistes vont faire par rapport au céder, au repas, et qui est un repas juif? Qu'est-ce qu'ils vont garder sur la table? Un exemple tout simple. On met une vitre ici, une grande vitre. Là, il y a le céder, il est ici. Jésus, ses disciples, etc., à tabler. Là, ici, je mets une communauté juive. Ici, je mets une communauté chrétienne. Je ferme le son. Okay. Les chrétiens qui sont là, ils vont voir ces hommes attablés. Une table où il y a tous les éléments. Ils ne vont rien comprendre. Qu'est-ce que c'est? C'est un casse-croûte? C'est quoi? Mais si je vais du côté de la communauté juive, eux vont reconnaître tout de suite et vont dire « Ah, mais c'est le céder !» Je remets le son et on voit ce Jésus, mais les gens ne savent pas forcément que c'est Jésus, dire une parole sur le pain. Ceci est mon corps livré pour vous. Et une parole sur la coupe. Mon sang versé pour vous. Là, les chrétiens vont dire, oh, mais c'est l'Eucharistie. Les juifs ici, mais qu'est-ce que c'est de ce faux truc? Ils vont déchirer leurs vêtements, puis ils vont tirer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les évangélistes? Ils ont gardé les deux paroles les plus importantes de Jésus. Ils ont fait comme l'archéologue, ils vont faire apparaître les deux éléments essentiels du céder, le pain et le vin. Et c'est ce que je célèbre avec vous chaque jour. Ça va là dans vos têtes?
Oui.
Donc à partir du repas pascal, il ne faut pas oublier. Donc ce repas pascal, c'est quoi? On fait mémoire de quoi? D'un Dieu qui libère, d'un Dieu qui sauve. C'est ça que le père de famille va raconter aux enfants. Et vous, qu'est-ce que vous racontez le soir de Pâques à vos enfants et à vos petits-enfants? Dites-moi voir, qu'est-ce que vous leur racontez? Rien du tout. Et ça me bouleverse intérieurement. Expliquez aux enfants. Pardon?
La mort et la résurrection.
Non, je ne te demande pas de me dire une formule de foi. Qu'est-ce que tu rencontres? Qu'est-ce que tu racontes le soir de Pâques dans la veillée pascale à tes petits-enfants?
Je suis fatigué, là.
Tu leur racontes quoi?
Je leur en parle, que demain,
admettez que vous ne le faites pas.
Oui.
Bon.
Oui.
C'est vrai. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser.
Oui.
Un peu quand même. Voilà, ça c'est le chaînon manquant. Et aujourd'hui, n'allez pas gueuler que vos enfants, vos petits-enfants, on les a emmenés à l'église, on les a envoyés au cadre. Et puis maintenant, ils sont loin. Vous n'avez pas raconté. Vous n'avez pas dit. Alors, vous allez que croire que, asseyez le jésuite de service, là, il est sorti, là. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser, mais je suis là pour vous faire reprendre mémoire. On a manqué quelque chose dans le christianisme. On a manqué quelque chose. Alors, je ne dis pas que les juifs, c'est mieux, je m'en fous, ça. Non. C'est de raconter. Et pas simplement d'être voyeur d'une célébration qui n'a plus aucun sens pour la plupart des jeunes aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, là on est au cours d'un repas. Il se passe aussi quelque chose, là vous allez pouvoir le dire, au cours de ce repas.
Il va laver les pieds.
Voilà. Je viens au cours d'un repas. Ça c'est propre à Saint Jean. Propre à Saint Jean. Ok ? Les autres évangélistes n'en parlent pas. Mais, dans Saint Jean, au cours de ce repas, il n'y a pas le récit de l'institution de l'Eucharistie. Oui, il faut peut-être ouvrir les évangiles, un jour ou l'autre. L'institution de l'Eucharistie est dans Matthieu, dans Marc, dans Luc,
et dans saint Paul, la première aux Corinthiens. Voilà. Dans saint Jean, non. Et pourtant, c'est au cours d'un repas, lui, il va nous donner d'entrer dans l'intelligence du sacrement. N'oubliez pas que le quatrième évangile vient après les autres. Il y a un autre niveau de profondeur. Il ne va pas être répétiteur de ce qu'il sait déjà. Mais il nous donne d'entrer à l'intérieur du sacrement, de l'institution de l'Eucharistie. Chaque Eucharistie, c'est le lavement des pieds qui se fait. Chaque Eucharistie. N'ayez pas peur, j'ai pas bu, rien. Hein. Je vous engueule pas non plus. Ça me sort des tripes, quoi, parce que je trouve ça désolant. L'intelligence, chaque Eucharistie, c'est le Seigneur qui est à vos pieds. Alors, peut-être que ça changera votre attitude quand vous irez recevoir le corps et le sang de Christ. Il est à ce niveau-là. Pourquoi à genoux de ses disciples, de ses apôtres? Pourquoi? Parce que si l'un d'entre vous vient à tomber, le Christ est à cette place-là pour vous rattraper, pour vous prendre en ses bras. C'est pas de la spiritualité. Et si on ne le comprend pas comme ça, bah, l'Eucharistie, ça devient un truc, ça devient un rite. Un rite, mon Dieu, quelle horreur. Non, c'est un sacrement. Et comme tout sacrement, ça nous remet debout. Et c'est le Christ qui nous remet debout. Vous comprenez maintenant la réaction de Pierre? Toi, me laver les pieds? Il a raison de dire cela, parce que c'est nos propres résistances qui apparaissent. C'est nos propres refus qui apparaissent à travers cette belle figure de Simon-Pierre. Si je ne te lave pas de part avec moi. Alors Pierre se met à délirer, alors pas seulement les pieds, et la tête, et les alouettes. Absolument. Vous comprenez ça? J'en dis pas plus. Qu'est-ce qui se passe ensuite après le repas? Quand tout cela est posé, là on est hein, à la base.
Il repart
au mont des Oliviers, très bien. Et c'est le temps de l'arrestation. Bien sûr. Oui. Tout à fait. Arrestation, mais vous voyez que avant que Jésus soit arrêté, l'essentiel est posé. Donc, en bon juif qu'il est, après le chant des psaumes, le céder, ça se termine comme ça. Le grand hallel, eh bien, il retraverse le cédron et va dans un jardin connu de lui seul et de ses disciples, nous dit Saint Jean. Et le bon Judas, il sert à quoi? C'est un indique, c'est tout. Il s'est fait piéger, lui. Complètement piégé. Mais lui, il connaît le lieu, parce que c'est un des 12. Il connaît le lieu de Jésus, et il amène la troupe, etc. Arrestation de Jésus. Dispersion. Eh oui, dispersion. Et d'ici... Et Jésus seul, ah, il y a quelqu'un quand même qui va suivre. Et c'est ça qu'on va célébrer tout à l'heure. Toujours Simon-Pierre. Il va suivre de loin, mais il va suivre. C'est une figure extraordinaire. C'est ça qu'on va célébrer tout à l'heure. Donc on peut dire que hein, Jésus meurt seul, vraiment. Quelques femmes, il regarde de loin. De loin du texte. Jean, lui, il va nous faire entrer dans ce qu'on appelle la haute christologie. Lui, il va placer Marie, sans dire son nom, et la mère de Jésus est seulement dans l'évangile de Jean. Matthieu, Marc, Luc, Marie n'est pas présente au pied de la croix. C'est des choses qu'il faut savoir, sinon on dit n'importe quoi. Elle est seulement présente sous le nom de femme. Gounei, que dans le quatrième évangile, accompagné de qui? La tradition, vont parler de Jean, fils de Zébédée, et c'est dans le texte, c'est le disciple que Jésus aimait. Et ça, c'est notre place à chacun, à chacune. C'est Jean qui nous laisse une place lui-même. Et puis, présence de Marie-Madeleine dans les quatre évangiles. Ah, c'est celle qui est toujours présente. Ok? Après cela, ben, ils sont où pendant ce temps-là? Ben, ils sont ici, les portes verrouillées.
Non.
Ben, bien sûr.
Non.
Joseph d'Arimathie, disciple de Jésus en secret, par peur des Juifs. Repensez, on va reprendre ça tout à l'heure dans la célébration. Mais toi, tu étais avec lui, là. Ah non, de quoi tu parles? Va te faire foutre. Non. Il se réfugie ici. Et c'est là que le ressuscité, si les portes avaient été ouvertes, vous savez, le ressuscité serait rentré par la porte. Mais comme tout est verrouillé, eh bien, le ressuscité, avec son nouveau statut, eh bien, est présent au milieu de sa communauté rassemblée. Et c'est cela, c'est cet événement-là qui est normatif pour notre foi. Les autres apparitions ne sont pas normatives. Ce sont des apparitions privées. Mais notre foi repose sur la présence du ressuscité au centre de son église rassemblée ici dans la Chambreuse. Ok, là ça va dans votre tête?
Très bien, oui.
Très bien.
Pourquoi tu l'as détraqué?
J'ai de la chance. Bon. Hein? Et 40 jours, voilà ce que j'ai dit ce matin, et ça va, ce qu'on a vu ce matin à l'ascension, etc. Il se prépare à quoi?
À recevoir l'esprit.
Oui, mais quand Luc, vous n'avez vraiment pas de mémoire. Quand Luc, après l'ascension, ben, vous avez entendu, j'ai vu, il donne le nom de tous les apôtres. Et Marie avec eux. Ça, c'est dans les actes. Mais quand on compte du corps de 12 que nous étions, ben, il en manque un. Il y a un corps de 11. Donc c'est un corps blessé. Et ce n'est pas le ressuscité qui va reconstituer ce corps de 12. C'est... Et qu'est-ce que va faire Pierre? Donc il reconstitue, ben, de ce corps de 11 un corps de 12. Et j'ai dit ça une fois à des évêques, ils n'étaient pas trop contents. Je dis, à partir de là, on peut avoir tous les évêques qu'on veut. Ben oui, c'est laissé à l'Église. C'est l'acte de la première communauté rassemblée. C'est intolérable que ce corps soit 11. Donc il faut laisser à la communauté pour trouver celui qui a fait défaut, qui n'a pas rempli sa mission, donc Judas. Celui qui a fait défection. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rassemblent, et Pierre, voilà, se rassemble, et demander au Seigneur, dans la prière. Donc, on va, comme c'est une élection, on va en présenter deux. Ben oui, il en faut deux. Si on n'en fait qu'un, il n'y a pas d'élection. Deux. Et là, c'est Oumim et Toumim, c'est un vieux rite juif, hein, de la, du temple, hein, où on tire au sort. C'est pas le 421. Non. Et là, on s'adresse à Dieu, lequel... Et on en présente un qui s'appelle Joseph Barzabas, qui veut dire fils du père, Joseph Barzabas, surnommé le juste. Waouh! Bon, on connaît le choix de la communauté à partir de là. Hein. La trois noms. Et Matthias. Alors naturellement, vous voyez bien, ça c'est toute la tradition biblique. Hein. C'est Matthias que le Seigneur choisit. Ce qui révèle la chose la plus importante, c'est que ce Joseph, par sa base surnommé le juste, il est vraiment juste. Parce qu'il n'a pas fait la gueule que ce soit l'autre qui soit élu. Ça veut dire... Non, ne riez pas. Ça veut dire qu'on ne retrouvera pas, comme aux origines, hein, un meurtre de frère. La fraternité est reconstituée grâce à Joseph surnommé le juste. On n'aura pas l'épisode de Caïn et Abel. On n'aura pas l'épisode, hein, de Jacob, Ésaü, etc. C'est dit. Non, à l'origine de notre Église, il n'y a pas de trace de jalousie grâce à ce Joseph Barzabas surnommé le juste. Ça, c'est formidable, vous voyez, quand on commence à méditer un peu là-dessus. Alors, Matthias, Matthias, on ne sait pas qui c'est, on ne le saura jamais. Disparaît. Et quand cela est fait, donc ça se fait pendant l'épisode des 10 jours, où l'esprit n'est pas encore venu. Le ressuscité rejoint le Père. Il y est présent d'une autre manière. Et quand cela est posé, quand le corps est reconstitué en tant que corps des 12, alors ben, l'esprit peut venir. Et c'est Shavuot. Shavuot, une pentecôtesse, qui veut dire cinquantaine. C'est le dernier jour pascal, la Pentecôte. Pour la communauté juive, c'est le don de la loi au Sinaï, donné à Moïse, loi écrite, loi orale, donc Torah écrite, Torah orale. Pour les chrétiens, c'est le don de l'esprit, du pneuma agion, et qui donne pour la première fois à Simon Pierre de parler. Et on tombe sur le premier discours de Pierre, adressé à qui ? Eh bien, à tous les pèlerins qui sont là. Tous les pèlerins qui sont venus, parce que Shavuot, hein, ou Pentecôte pour nous, hein, c'est une fête de pèlerinage dans le judaïsme. Et là, il y a plein de monde. Et là, la Torah, on danse avec, devant le kotel, devant le mur. On danse avec la Torah. Matan Torah. Voilà. Ben Pierre, lui, voilà. Et tout le monde entendait la merveille de Dieu dans son propre idiome. Il ne faut pas croire qu'il fait... Non. Pierre a parlé son langage, et ce langage a rejoint ceux qui étaient là. Et chacun comprenait les merveilles de Dieu, et dit Luc dans son propre idiome, dans sa propre langue. Et il donne la liste des peuples qui sont là. C'est-à-dire de tous ces juifs qui sont venus au pèlerinage à Jérusalem. Un dernier événement ici, après la Pentecôte, qui est important. Et on s'en va.
Thomas, l'épisode de Thomas.
Alors là, je vais passer dessus. Là, ça se passe la semaine d'après, 8 jours après.
Quoi ?
Là, je suis à la Pentecôte. Hein, 8 jours après, il y a la rencontre avec Thomas. Il en manquait un. Mais lui, il n'était pas départ par défection. Lui, il était parti faire les courses à Carrefour. Et quand il est revenu, il n'a pas voulu croire Léon. Et Jésus, 8 jours après, donc toujours le premier jour de la semaine, apparition à Thomas. Là, après la Pentecôte, quel est l'événement un peu important qu'on célèbre aussi? Allez, le martyr d'Étienne. On y va.
T'as enregistré?
Je crois, oui.
Ce serait bien, ça.